journalisme, tous les avocats des notables, les concessionnaires du fascisme, ça y a du fric sous la table.
Depuis le début du mois de décembre, depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, on tend notre micro aux manifestants. Que ces manifestants soient syndiqués, gilets jaunes, étudiants, retraités, chômeurs, réformistes ou radicaux, ils sont profs, hospitaliers, électriciens, cheminots, grévistes de Radio France, etc. On continue aujourd'hui ce panorama des revendications, des colères, des espoirs aussi, avec ces nouveaux témoignages recueillis jeudi 9 janvier dernier, au début de la manif lilloise.
Moi je suis donc Dupont-Iori, je suis responsable du PTB, donc le Parti des Travailleurs Belges à Tournai, donc de l'autre côté de la frontière, et je suis député au Parlement wallon en Belgique.
Pour représenter brièvement peut-être ce parti aux auditeurs du Pas-de-Calais qui ne connaissent pas forcément ce parti, c'est un parti de gauche, ah oui, radical, ouais. Et qui a un certain succès électoralement aussi.
C'est ça, donc effectivement, nous, le Parti de Travailleurs Belges, hein, donc ça porte bien son nom, donc on a un parti de gauche réelle. Et donc en fait, c'est vrai que ces élections-ci, on a eu deux phases d'élections en 2018 et 2019, on a bien monté, on est arrivé à 12-13%, donc on a des députés maintenant dans tous les parlements belges, que ce soit les parlements flamands, bruxellois, wallons et fédéraux en Belgique.
Alors pourquoi vous êtes ici à cette manifestation à Lille ?
Il y a deux choses. Déjà, la pension à points, c'est quelque chose qu'on a combattu en Belgique. Hein, donc c'est une thématique qui se déroule partout en Europe, mais également en Belgique. On l'a eu il y a 2 ans. Il y a eu cette tentative de nous imposer cette pension à points. Et en fait, on l'a combattu, notamment par des manifestations, par des slogans, par des pétitions. En fait, on a vraiment revendiqué que notre pension n'est pas une tombola, qu'un point ne vaut pas en argent, et qu'en fait, ce point peut complètement se modifier. Attention, il y a une voiture. Et que donc ce point, cette valeur du point, en fait, c'est pas une tombola, quoi. Notre pension, c'est un droit, et on revendiquait ça, et on a réussi à les faire reculer. Donc ça fait 2 ans qu'on a fait reculer la pension à point en Belgique. Et donc en fait, pour nous, on vient en soutien. Et puis on vient aussi intéresser parce qu'évidemment, si ça repasse en France, ils vont nous la remettre en Belgique. Et donc c'est évident que pour nous, c'est aussi un combat. Partager notre expérience, venir soutenir et espérer que la France va gagner.
Les retraites en Belgique, ça marche comment ? Ça marche à peu près comme en France actuellement ou...
Oui, c'est à peu près le même système, sauf que donc nous, on a perdu un combat, qui est celui de la pension à 67 ans. Donc effectivement, nous, l'âge de la pension est passé à 67 ans. Mais il y a des victoires en Europe. Il y a eu des victoires, notamment dans des pays tels, en Croatie. Ils sont revenus de 67 à 65 ans, notamment par des combats syndicaux. Donc ce sont des choses possibles, ce sont des victoires possibles. Nous, c'est une victoire qu'on veut aussi mener en Belgique, donc de reculer l'âge de la pension. Mais sinon, sur le fonctionnement de la pension, c'est la même chose qu'en France, c'est la sécurité sociale. C'est le même fonctionnement. Et pour l'instant, ce n'est pas une pension à points.
Alors ici, les gens se battent contre les 64 ans. Comment vous voyez ça, vous
ouais, ils ont raison. En fait, c'est pas. Donc la justification, toujours, elle était de dire oui, mais on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Oui, mais on vit plus longtemps parce qu'on a commencé à travailler moins longtemps. Et donc, en fait, c'est ça la vraie question. On vit plus longtemps parce qu'on a commencé à travailler moins longtemps. Ce n'est certainement pas en travaillant plus longtemps qu'on va vivre plus longtemps et certainement pas en bonne santé. Donc, l'âge de vie en bonne santé, il est plutôt en diminution. Et il y a une grosse disproportion entre les ouvriers qui vivent à peu près 8 ans de moins que les employés ou que les CEO et ce genre de choses. Donc, il y a évidemment il y a des gens qui ne vont jamais aller jusqu'à la pension.
Alors, c'est une question qu'on va essayer de poser à tous les gens qu'on rencontre aujourd'hui. Quel serait le système de retraite idéal, selon vous, dans un monde parfait ?
Mais le système qui existe, le système de la sécurité sociale qui finance notre retraite, une retraite juste, une retraite avec un minimum, hein, qui doit être au-dessus du revenu de seuil de pauvreté, qui est, si je ne me trompe pas, de 1130 euros à peu près minimum en Europe, c'est le seuil de pauvreté, chez nous, en tout cas en Belgique et en France. Et donc ça, c'est le minimum, c'est une pension digne, une pension décente, une pension à un âge convenable, une pension qui tienne compte de la pénibilité du travail, et une pension qui est financée par la sécurité sociale, qui est notre plus grand acquis depuis 1946, qui est une pension qu'on a arrachée aux mains du capital et qu'on doit continuer à défendre.
Je m'appelle Bernard Godbille et je suis enseignant, je travaille pour le ministère de la Culture, je suis fonctionnaire.
Alors vous avez un drapeau CGT Culture, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je suis syndiqué. Donc en fait, et membre de, du CHSCT, enfin bon, voilà, les commissions qui servent à faire discuter nos directions et les agents.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à cette manif?
Bah bon, moi j'ai l'impression que... Bon, d'abord, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris des enjeux de la retraite. Mais je me suis laissé dire et j'ai lu dans la presse CGT qu'il n'y avait pas du tout d'urgence. Je ne sais pas, je n'ai pas les clés de la caisse. Mais je crois savoir qu'il n'y a pas d'urgence à faire des règles, à faire des réformes de cette façon-là. Et en plus, ce que je comprends, c'est que de toute façon, même si, quoi que soit la concertation, le gouvernement fera ce qu'il a décidé de faire. Donc, comme sur d'autres sujets, en fait, il se donne toujours la possibilité de passer outre les avis qui pourraient être donnés lors de la concertation. Donc, en gros, je manifeste contre ça, contre le fait qu'il n'y a pas de discussion sur ce sujet, qui est quand même un sujet qui regarde tout le monde. Le sujet de la retraite, donc.
Au-delà des retraites, ce qui s'exprime dans ce mouvement social, c'est un ras-le-bol général. Est-ce que vous, dans votre secteur, vous sentez ça aussi ou pas?
Nous, moi, je travaille dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout est fait pour l'usure, c'est-à-dire qu'on a réduit fortement le nombre d'agents. Donc on n'a pas réduit le nombre de profs, mais on a réduit le nombre des agents administratifs dans les écoles. Grosso modo, on a essayé de transférer des tâches administratives vers les enseignants. Et tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, mais chacun est de son côté. On ne sait pas faire front. Tout le monde se plaint, tout le monde craque. Il y a beaucoup de malades longue durée. On a sur 30 agents, on a 5 maladies de longue durée, ce qui est quand même énorme. Donc le travail se reporte sur les autres. Enfin bref, ça use, mais ça ne casse pas. Et je ne sais pas pourquoi ça ne casse pas. Enfin, par exemple, mes collègues ne sont pas en grève.
Je reviens sur la question des retraites. C'est une question qu'on va poser aussi dans cette manifestation aujourd'hui. C'est quel serait, selon vous, le système idéal de retraite dans un monde parfait?
Ben, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Je suppose qu'il faut faire bouger des choses. Je suppose bien, enfin, je suis assez prêt personnellement à penser qu'il faut une réforme. Mais c'est la manière de la faire pour laquelle je ne suis pas d'accord. Je pense que donc, il faut mettre les partenaires donc les syndicats autour de la table et ouvrir une discussion. Mais ça ne va pas se régler en 3 semaines, ni en 3 mois. Ça va se régler sur plusieurs années. Et ce n'est pas urgent. Enfin, on traite tout à l'urgence. Enfin, je pense que là, Macron, il a fait une promesse électorale et il veut la tenir. Et cette promesse, elle n'est pas dirigée vers nous, les travailleurs. Elle est dirigée plutôt vers ceux qui bénéficient de notre travail, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. En tout cas, je ne pense pas que le système par points, enfin, un système à l'américaine soit... Moi, je suis pour le service public, donc un pays avec beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de services, des services qui évoluent aussi. C'est peut-être pas évident à faire, et donc des retraites garanties. Alors nous, on n'est pas payé très cher, donc on avait, il y avait la possibilité que ce soit sur les 6 derniers mois que l'on comptabilise le montant de notre retraite. Donc là, par exemple, pour les enseignants, il est question de... On sait que les enseignants de l'éducation nationale sont payés, sont très mal payés, mais parce qu'on leur garantit l'emploi. Et on leur garantit qu'en fin de carrière, s'ils ne sont pas complètement usés, et ils sont un peu usés, si en fin de carrière, ils pourront peut-être partir pas trop tard et avec une retraite digne. Donc, je ne sais pas comment juger de la dignité d'une retraite. En tout cas, je crois que quand je vois mes voisins dans le HLM qui ont 800 euros de retraite, je pense que c'est pas suffisant, quoi. Donc, je ne sais pas comment calculer ça. Mais enfin, moi, voilà, je suis une espèce d'imbécile, en gros. Je subirai le système et je ne subis pas totalement le système. Je manifeste pour qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute.
Oui, alors, monsieur Lec Fabrice, alors je suis secrétaire adjoint sur le site de Douvrin-PSA. On s'en concerne pour les retraites plus tard sur tout ce qui va se passer pour nos jeunes, l'avenir surtout, hein, nos jeunes. Donc, bon, ce qui est regrettable, c'est qu'on est peu nombreux déjà là. Mais bon, on espère que ça va continuer et que ça ira au bout et qu'il va retirer sa retraite.
Dans ce mouvement social, il y a beaucoup de fonctionnaires qui font partie de ce mouvement social, un peu moins des boîtes privées. Comment vous voyez ça, vous?
Je pense que c'est dommage. Déjà, dommage qu'on ne soit pas tous unis. Après, effectivement, on n'a pas tous les mêmes statuts. Donc, c'est peut-être ce qui explique votre question. Et bon, après, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner là-dessus. Hein, c'est chacun sa... Malheureusement, ce qui est... Enfin, pour nous, ce qui est dommage, c'est que c'est chacun pour soi et ça ne devrait pas l'être. Donc bon, on verra bien.
Quel serait pour vous le système idéal de retraite dans un monde parfait?
Bah écoutez, si je le saurais, ça serait que tout le monde déjà, quand il a fait ses 38 ans de service, puisse partir. Ça serait déjà bien. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et je pense que c'est un point de vue général. Parce que déjà, dans nos métiers, quand on a fait 38 ans de poste, c'est suffisant. Voilà.
Oui, justement, là, vous, la pénibilité du travail, tout ça, c'est comment vous voyez ça?
La pénibilité, chez nous, elle est... il faut déjà avoir fait pas mal de mois de nuit, donc on n'a pas beaucoup de points pour la pénibilité. C'est très dur à cumuler. Je parle sur PSA, hein. Après les autres, je ne connais pas. Donc la pénibilité, elle n'est pas très très reconnue, non. Pour nous.
Merci beaucoup.
Oui, alors Jean-Pierre Roger, je suis représentant FSU, hein, le syndicat des enseignants, dans une structure qui s'appelle Réseau Canopé. Anciennement CNDP, CRDP. En fait, ce réseau est constitué en majorité d'enseignants détachés qui proposent à leurs collègues sur le terrain des scénarios pédagogiques. Donc en fait, on produit de la documentation pédagogique pour aider nos collègues qui sont sur le terrain de pouvoir faire leur métier correctement. Et le ministère a décidé de nous rayer de la carte au 1er janvier 2021, uniquement pour des raisons budgétaires, sans absolument rien mettre en face. Donc ça veut dire que nos collègues sur le terrain vont se retrouver sans unité de formation, sans structure qui puisse les aider pour l'organisation de leur travail quotidien.
Depuis quand vous savez ça?
Le 18 décembre, juste avant les congés. C'était une façon très adroite de nous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on est pour la plupart, nous sommes des enseignants. Il y a également quelques personnels administratifs. Mais notre travail, c'est ça. Moi, j'ai été très longtemps directeur d'école, hein, pendant une quinzaine d'années, 25 ans d'enseignement sur le terrain. Et puis, je suis dû justement travailler dans cette structure pour pouvoir... parce que moi, du coup, j'ai le temps pour pouvoir aider les collègues à la préparation de leur classe avec des parutions, des publications. Et tout ça, c'est... Alors, on est organisé en réseau. À Lille, par exemple, mais vous avez ça à Arras aussi, vous avez ce qu'on appelle un atelier canopé, dans lequel vous avez une médiathèque, dans lequel vous avez une librairie, dans lequel vous avez des formations qui sont données à nos collègues. Et tout ça disparaît au 1er janvier 2021.
Et rien à la place?
Rien à la place. Ça sera éventuellement redistribué vers le privé, mais sans en savoir plus davantage. Alors, ça a un gros impact, évidemment, sur nos collègues enseignants. C'est pour ça qu'on est là ce matin, enfin cet après-midi, pour leur expliquer ce qui se passe. Et puis, ça a évidemment un impact aussi sur les personnels, parce que Réseau Canopé National, ça fait à peu près 1300 personnes qui sont en grande difficulté professionnelle parce qu'ils ne savent pas, au 1er janvier 2021, ce qu'ils font.
Alors, bien sûr, dans ces manifestations, dans ce mouvement social, il y a plusieurs choses qui se croisent.
Tout à fait, Il y a un agglomérat. Il y a un agglomérat des revendications, c'est clair. Au-delà du problème des retraites, qui est un vrai problème pour les enseignants, parce qu'il y a une perte considérable du revenu si le projet passe comme il est actuellement pour les jeunes enseignants. Et au-delà de ça, il y a évidemment des mécontentements qui naissent, parce qu'on se rend compte qu'au-delà des retraites, on est concerné aussi par des tas de choses qui touchent plus généralement les services publics. Service public hospitalier, service public d'éducation, service public des transports, c'est tout qui est mis à mal actuellement.
Dernière question, c'est une question qu'on pose à tout le monde dans la manif. Dans un monde idéal, quel serait le meilleur système de retraite selon vous?
Alors écoutez, moi celui qui va me permettre de partir à la retraite dans quelques mois me convient tout à fait. Il faut évidemment l'améliorer parce que j'ai bien conscience aussi que la durée de vie s'allonge, Mais en tout état de cause, je ne voyais pas le besoin d'un tel chambardement, surtout que le gouvernement est dans le flou le plus total. On ne sait pas le financer, on ne sait pas comment ça marche. Ils sont en train de reculer sur des tas de catégories sociales. C'est un grand merdier, en fait. Et je crois qu'ils ont accouché d'un grand merdier. Maintenant, il faut qu'ils se démerdent avec.
Témoignage recueilli le jeudi 9 janvier dernier, c'était au début de la manif lilloise et c'était le 36e jour de grève. Des heurts ont eu lieu lors de cette manif entre les manifestants du cortège de tête et la police. Plusieurs interpellations, plusieurs blessés, notamment cette jeune étudiante en journalisme, encore un étudiant en journalisme blessé à Lille. Elle s'appelle Marie, elle a 19 ans, elle est photographe. Elle a été victime de 2 coups de matraque à la tête et au bras au cours d'une charge de CRS. Elle a pu sortir des urgences sur le coup de 22h. On peut aussi dire qu'après la manif, la police a encerclé un bar, le Café Citoyen. C'est un café connu pour son engagement autour des questions sociale et environnementale. Et là aussi, plusieurs interpellations ont eu lieu.
Divergence de fond.